partie spéciale de l'émission, ça arrivera pas toutes les semaines. C'est une interview d'une personne pour nous livrer un peu son analyse sur la situation des actualités actuelles. Bonjour monsieur Hichbia.
Bonjour.
Vous avez un CV impressionnant, vous avez été donc journaliste, hein. Vous avez fait des chroniques dans différents journaux comme Macworld, si je me trompe pas.
Ouais, je sais toujours. Hein.
Vous avez été rédac chef de VST Jeux Vidéo en 98.
Oui, tout à fait.
Vous avez aussi écrit des chansons, mais vous êtes surtout écrivain, donc vous écrivez dans pas mal de domaines. La musique, oui. Vous avez fait des livres sur les Beatles, sur Coldplay, sur Chimène Badi. Vous en avez fait d'autres pour apprendre la...
Chimène Badi, on peut ne pas dire qu'il y a une commande.
Oui, voilà.
Chimène Badi, on peut effacer. Non, pas bon.
Vous avez... Vous avez aussi écrit des livres sur l'apprentissage de la guitare ou la prise en main de logiciels de musique comme Cubase, par exemple.
Fait, ouais.
Mais vous avez surtout écrit des livres sur l'informatique, et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est grâce à votre livre « Comment Google mangera le monde » qui est sorti à 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas.
En 2006. Il est sorti en 2007. Il était écrit en 2006. Oui, tout à fait.
Vous l'aurez deviné, amis auditeurs, c'est de Google dont il est question aujourd'hui, et Daniel Hichbia va donc nous livrer ses analyses sur le Google d'aujourd'hui.
Ouais.
Alors, première question, on a vu au cours de ces dernières années que Google n'a pas eu que des succès. Bon, ils en ont eu, bien sûr, mais je pense aux récents cas Google Wave et Nexus One, qui ont été des bits de plus ou moins grande ampleur. On peut remarquer aussi un essoufflement financier, on voit des mises à dos avec des... On voit des mises à dos avec les puissants, comme le gouvernement français, les éditions de la Martinière, avec Apple, avec Microsoft, avec Mozilla. On voit aussi que de plus en plus de gens craignent un G Big Brother, en fait.
Oui.
Et ce sentiment a été renforcé par les déclarations d'Eric Schmidt il y a quelques mois. Pour vous rappeler un peu la situation, ce qui s'est passé, c'est que Eric Schmidt était interrogé sur le fait que Google récolte nos données les plus personnelles. Ce à quoi il avait répondu que si des gens inscrits sur Google avaient des choses à se reprocher, il fallait qu'ils commencent à ne pas les faire avant d'aller sur Google. Bref, on vous voit que Google ne commence à plus devenir infaillible. Alors, la première question, c'est est-ce que Google est dans la merde ? Enfin, est-ce que c'est le début de la fin de Google ? Est-ce que Google va devenir comme... va devenir dans les années 2010 que Microsoft était dans les années 90, c'est-à-dire une entreprise qui est puissante, mais décriée ?
C'est possible, c'est encore un peu tôt. Hein. En fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre 98 et on pourrait dire 2008 environ, Google monte, enfin c'est la société qui est adorée. Je crois il me semble que c'était en 2008 où ils étaient la société où les gens voulaient la société préférée des Américains, celle où ils voudraient vivre, celle où ils voudraient travailler le plus. Et puis, Larry Page et Sergey Brin étaient quand même montés à la cinquième position des milliardaires américains. Et puis d'un seul coup, 2008, c'est le reflux. C'est d'abord le reflux financier en fait. Hein. Il faut savoir que. L'action a commencé à baisser en 2000, pardon.
Oui, je vous écoute.
L'action a commencé à baisser en 2008 et puis à la fin de l'année 2008, Google n'est plus que la 30e société au monde. En fait, ils étaient montés beaucoup plus haut. Les fondateurs ont programmé à la 26e place des milliardaires américains. Ils licencient 200 employés. Enfin, ça fait bizarre. Et puis, ce qui se passe, effectivement, ils commencent un petit peu à perdre quelques... Il y a Jean-Yves Lafesse, mon direct, qui les attaque pour avoir... ses sketchs sur YouTube, il y a TF1 qui les attaque, il y a eu l'affaire avec les journaux belges, lesquels ils ont perdu, les journaux belges qui ne voulaient pas du tout apparaître sur Google News. Donc ce qui s'est passé, c'est que Google a grimpé. Google n'est pas forcément une société qui est, comment dire, pas plus que Microsoft, ce ne sont pas des sociétés qui sont vraiment des sociétés, comment dire, diaboliques ou quoi que ce soit. Simplement, ces sociétés ont longtemps vécu dans une tour d'ivoire, je m'explique. Quand on va chez Microsoft, par exemple, Microsoft est entouré d'une espèce de forêt. Enfin, ils sont complètement à l'écart du reste de la ville. Google, c'est pareil, les gens peuvent très bien, les employés de Google, ils peuvent dormir là-bas, ils pourraient pratiquement vivre une partie de l'année chez Google. J'exagère un peu.
Oui, c'est vrai, c'est ce que vous disiez dans votre livre. Et d'ailleurs, c'est l'image que renvoie Google, c'est-à-dire le Googleplex, le siège social de Google, à tout, c'est-à-dire c'est quasiment une petite ville en soi, parce qu'il y a des restaurants, il y a même pareil, des coiffeurs, des médecins.
Tout à fait. Mm-hmm. Et de très bonne qualité. Donc ce qui se passe, c'est que quand une société comme ça, elle est un petit peu... Elle progresse, et qu'elle n'a pas spécialement des échanges avec l'extérieur, elle se croit un peu tout permis, parce que bon, je prends l'exemple de la Bibliothèque mondiale. Google s'est dit, on n'a pas le temps d'attendre, on y va, on fonce, et puis on prend les livres, on numérise. Si les éditeurs ne sont pas contents, vous nous contactez, et puis vous nous dites, bah écoutez, on voudrait tirer notre... Donc pas d'abord, c'est un petit peu, comment dire, j'arrive chez vous, je sais pas, je me garde dans votre jardin, et puis je me dis, si vous êtes pas content, vous me dites de m'en aller, quoi. Mmh. Donc c'est un petit peu une attitude qui a énormément choqué, qui a été assimilée dans les pays européens un peu à une attitude un petit peu à la McDonald's, enfin, je sais pas comment dire. On s'implante et puis après on voit ce qui se passe. Je pense pas qu'ils sont spécialement méchants, les deux gars de Google. Ils font beaucoup de choses bien, mais ils ont eu un petit peu cette attitude d'être complètement déconnectés du monde et de croire que tout leur réussissait. Et depuis la fin de 2008, ça commence à chuter.
Et vous pensez sincèrement que c'est le début de la fin de Google, que Google est arrivé à son apogée et que... Bon, je sais, c'est un petit peu tôt pour faire des prévisions comme ça, mais est-ce que vous pensez que là, Google est sur une pente descendante ?
Google est sur une légère pente, c'est pas énorme, Google est sur une petite pente, c'est vraiment... C'est pas du tout... Je pense pas du tout que Google soit en danger. Google, il y a un moment dans la vie d'une société où elle atteint un tel taux, un tel niveau que...
Qu'elle peut plus remonter.
Un petit peu. C'est pas qu'elle peut pas remonter, c'est qu'elle peut pas vraiment s'arrêter comme ça. C'est une société comme IBM, par exemple. Je sais pas ce qu'il faudrait pour qu'une société comme IBM s'arrête. Pareil pour Microsoft. Et Google a atteint ce niveau-là. Vous savez, c'est un peu comme un bateau qui est en mer, il s'arrête. Combien de temps il arrête ses moteurs? Combien de temps est-ce qu'il va continuer à dériver? Je sais pas, c'est un petit peu ça.
D'accord.
Or, Google, faut quand même pas oublier, c'est la très grande majorité des utilisateurs du monde utilisent Google.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un monopole assez impressionnant.
En fait, c'est pas un monopole, c'est auto-choisi. Là où justement, quel est le danger pour Google de plus être populaire? C'est que Google, c'est un service gratuit. La seule chose qui puisse menacer Google, c'est que demain, je me dis, tiens, Google, c'est plus tellement cool, je vais utiliser un autre moteur de recherche. Si j'utilise un autre moteur de recherche, je ne vois plus apparaître les publicités de Google, et dans ce cas-là, je clique plus dessus, et tout le revenu de Google pourrait s'effondrer. Mm-hmm.
Comme j'ai posé à pas mal d'amis s'ils avaient des questions pour vous, et il y en a un qui m'a posé la question suivante. Pourquoi est-ce que, dans votre livre, vous avez choisi de traiter... du cas Google en premier et pas du cas Apple, du cas Microsoft? Est-ce que c'était une affaire parce que c'est une affaire d'actualité, ou est-ce que c'est parce que Google est symptomatique de la Silicon Valley, ou pourquoi vous avez choisi Google en particulier?
En gros, pourquoi j'ai fait un livre sur Google?
Oui.
C'est ça que vous me demandez?
Oui.
En fait, non, moi, c'est juste parti d'une commande d'un éditeur. C'est un éditeur qui m'a appelé un matin, qui m'a dit, est-ce que tu voudrais faire un livre sur Google? J'ai dit oui. C'est parti d'une commande, tout simplement. Moi, je suis journaliste dans le domaine de jeux vidéo et multimédia. Bon, j'avais écrit un livre sur Bill Gates, et puis j'avais aussi écrit la saga de jeux vidéo. Là, c'était plus des décisions à moi, mais là, en fait, c'est une commande qui m'est tombée dessus. J'avais pas refusé.
Vous avez appris énormément de choses en faisant ce livre.
Énormément de choses. Je dirais qu'en fait, pour le grand public, Google, moteur de recherche, Google, c'est juste la machine à sous la plus infernale qui a jamais eu.
Qui a jamais existé.
Une boule d'or cachée dans l'internet. Qui n'a jamais existé, enfin disons, potentiellement. Parce que c'est comme si dans l'internet il y avait une boule aux œufs d'or et que celui qui trouvait cette boule aux œufs d'or deviendrait le milliardaire du domaine. Google a trouvé la boule aux œufs d'or d'internet. Cette boule aux œufs d'or, c'est ses mots-clés publicitaires. Pourquoi? Si vous me donnez un petit peu quelques minutes, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous voulez faire de la. Vous avez un business, vous avez quelque chose, vous avez une activité quelconque.
Léopold,
est-ce que vous avez une activité par exemple que vous voudriez commercialiser?
Oh, je sais pas, mon blog par exemple, mon podcast. Hein.
Le podcast, bon, imaginons que vous vouliez que les internautes voient votre podcast, vous voulez acheter le mot-clé podcast. Vous allez appeler Google, Google va vous dire, bah, ok, si vous voulez être le numéro 1, il faut aller... Pour l'instant, le numéro 1 paye 2,50€ par exemple, disons, pour chaque fois qu'on clique sur podcast. D'accord. Une fois que vous avez acheté le mot-clé podcast à 2,50€, chaque fois que quelqu'un clique sur podcast pour arriver chez vous, vous payez 2,50€ à Google. Mais pendant ce temps-là, vos concurrents, ils vont appeler Google, ils vont dire, comment ça se fait qu'on n'est plus en tête?
Non, c'est un système d'enchères, en fait.
C'est un système d'enchères. Mmh. Ça veut dire qu'à la fin du mois, quelqu'un va payer 3€, 4€, 5€, ça ne peut qu'augmenter.
Donc,
moi, j'ai... Pardon?
Donc, en fait...
Il y a une chose que j'aime bien. Il y a une chose que j'aime bien... Excusez-moi, je voulais me dire quelque chose?
Allez-y.
D'accord. En fait, moi j'ai une théorie qui est assez marrante. Google, à mon sens, c'est la seule société au monde, j'en connais pas d'autres. C'est la seule société au monde qui pourrait dire aujourd'hui, on est le 11 février, on met la clé sous le paillasson, on ferme Google pendant un an. On revient un an plus tard, le 11 février 2011, et ben Google a continué à faire des bénéfices. C'est pas extraordinaire ça?
Oui.
Parce que les enchères ont continué de marcher.
Alors, moi je peux. Donc, si je résume bien, le business model de Google, c'est en gros des publicités qui sont ciblées, c'est-à-dire des publicités qui sont plus ou moins intelligentes, c'est-à-dire qui répondent à peu près à ce que l'utilisateur a envie de voir comme publicité, si je ne me trompe pas.
D'accord. Oui.
C'est pour ça qu'il récolte des données.
Par rapport à son plan. Absolument.
Et en gros, donc, le business model de Google, c'est en gros les publicitaires qui demandent à Google d'afficher leur pub en fonction de certains mots-clés et en premier. Et c'est, après, c'est un système d'enchères. Et après, c'est un, d'accord, ok.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi c'est quelque chose de dingue. Prenez une agence de voyage. Combien de mots-clés peut acheter une agence de voyage? Imaginons que je mets par exemple voyage Toulouse-Marseille, voyage, Paris-Casablanca. Prenez-moi toutes les destinations du monde avec toutes les combinaisons possibles et il faut que je, si je suis Nouvelle Frontière, j'apparaisse.
Ouais,
vous vous rendez compte du nombre de mots-clés que j'achète à Google? Et si je suis le concurrent maintenant au Podo, maintenant j'achète ces mêmes mots-clés. Donc, une boîte comme Amazon, prenez tous les écrivains qu'il y a dans le monde. Pour Amazon, il faut que si on tape Victor Hugo, Amélie Nothomb ou peut-être même Daniel Guichepia, il faut qu'on fasse apparaître la pub d'Amazon. Eh bien, Amazon doit acheter des centaines de milliers de mots-clés.
Alors, la question suivante, c'est est-ce que, à votre avis, les gens ont pris conscience... En tout cas, est-ce que les gens ont changé de vision sur Google ces dernières années? Est-ce que, globalement, l'image que Google, c'est cool et pas evil, comme ils disent, don't be evil, c'est leur slogan, est-ce que cette image de Google, c'est le bien, est-ce que cette image a régressé? Est-ce qu'il y a une volonté de garder ses données personnelles très personnelles? Donc, est-ce qu'il y a une défiance par rapport à la récolte des données personnelles de Google? Parce que Google prend vos données personnelles à chaque fois que vous allez sur Google. Google stocke ce que vous faites pour mieux cibler les publicités. En bref, est-ce que Google fait peur?
Ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte quand ils utilisent le moteur de recherche Google. Personne ne sait. Je crois que très peu de gens, ça, malgré tout, il y a les nerds de ça, enfin les gens qui sont un peu férus du domaine de ça. Mais qui est-ce qui sait qu'on est en train de mettre sur un ordinateur tout ce que vous avez fait? Il y a très peu de gens qui le savent. Il n'y a aucun avis sur la page d'accueil de Google qui dit attention, tout ce que vous recherchez, je regarde une copie chez moi. Bon, il y a eu des manœuvres qui ont été faites par les mouvements de défense des libertés qui font que maintenant, c'est maintenant réduit à 9 mois, je crois, hein, le temps que Google garde vos données. Mais il faut savoir que par le passé, le gouvernement américain a déjà demandé à Google, comme à Microsoft et à Yahoo, on voudrait avoir 3 mois de consultation de certains internautes. Et ces 3 opérateurs ont tenté, ça veut dire qu'ils ont bien donné au gouvernement américain ce que le gouvernement américain recherchait. Ça veut dire qu'un jour, Google pourrait très bien être forcé par le gouvernement de dire, voilà, Léopold, il a consulté tel site, tel site, tel site, tel site. C'est quand même pas génial. Et puis, il y a un autre point qui est très important. À l'heure actuelle, depuis 20 ans à peu près, il y a une loi qui s'appelle Informatique et Liberté. Vous pouvez aller voir le gouvernement français. Un Américain peut aller voir le gouvernement américain et lui dire, qu'est-ce que vous avez comme données sur moi? Et il peut demander à les faire corriger. Ça va prendre du temps, mais il peut le faire. Vous, en tant que citoyen, vous ne pouvez pas demander à Google, « Hey Google, j'ai ces données, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez comme données sur moi et je voudrais les... » Il faut savoir, je ne blague pas, il y a des gens dont la réputation a été tombée à cause de Google. Imaginez que vous avez un ennemi qui fait un blog ou je sais pas quelque chose, il fait un site contre vous. Et manque de bol, il arrive en première page de Google. Quand les gens tapent votre nom, ça arrive en première page et votre réputation peut être ruinée par ça. Et ça, il y a peu de moyens pour se défendre. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas énormément.
Vous avez décrit dans votre livre la culture du secret chez Google. On voit par exemple un employé de Google se faire licencier pour avoir publié des informations plus ou moins confidentielles pendant 10 minutes sur son blog. Mais alors, la culture du secret de Google serait plus forte que celle d'Apple? Ce serait un comble.
Oui, là, vous avez choisi les deux exemples les plus forts. Bon, c'est vrai que le secret pour des sociétés comme Apple ou comme Google, c'est une arme. C'est une arme qui permet de rendre les concurrents paranoïaques. C'est vrai qu'Apple est également très très fort là-dessus. Je crois que les deux sociétés sont aussi fortes l'une que l'autre dans le domaine. Mais je pense même que Google va plus loin parce qu'on voit très rarement Larry Page et Sergey Brin se faire interviewer. C'est très très rare. Alors que Steve Jobs, c'est un grand communicant. Steve Jobs, on le voit à l'ouverture des boutiques Apple. Enfin, Steve Jobs est beaucoup plus ouvert quand même à communiquer.
Alors là, c'est une question plus ou moins technique. Ami auditeur à qui je m'adresse, accroche-toi. Alors, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle d'un nouveau produit Google dans les sites informatiques. Cette semaine, par exemple, c'était Google Buzz, hein, c'est qui a été lancé mardi.
Google Buzz, absolument.
On pourrait faire, et d'ailleurs je pense que je vais le faire, une sorte d'instant, le produit Google de la semaine, tellement il y en a. Parce qu'il ne se passe vraiment pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau produit Google qui sorte. Bref, est-ce que vous pensez que c'est la tactique commerciale de Google, entre guillemets, d'asphyxier les news tech en monopolisant l'attention sur des produits dans des domaines totalement divers, parce que il y a quelques mois, on avait parlé, enfin Google avait lancé un produit à propos des toilettes. Enfin, c'était un truc comme ça, un truc d'eau, etc. C'est vrai en plus. Hein. Est-ce que c'est donc l'idée de Google d'asphyxier les news tech en monopolisant les news tech, donc tout le monde parle de Google, sur des produits dont on ne parle plus au bout de deux jours. Ça vous dit quelque chose, vous, le langage Go? Non, Google l'avait lancé il y a...
Oui, absolument, tout à fait, oui, tout à fait.
Le Go, peu de gens s'en souviennent, et pourtant Google l'avait lancé à grand ramdam il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez que ça...
Le Go n'a pas été lancé par Google, non, je crois pas. Hein.
Le langage Go.
Le langage Go.
Oui.
Ça n'a pas été lancé par Google, je crois pas.
Si, ça a été lancé par Google il y a deux ou trois mois de ça. Oui, j'en suis sûr.
Ah bon, d'accord.
J'en suis sûr.
Ah oui, d'accord.
Parce qu'en fait, le coût de sortir des produits très régulièrement comme ça, ça permet à Google à la fois de se faire une bonne pub. On se dit Google, c'est une entreprise cool, dynamique, qui sort plein de nouveaux produits. Et aussi, ça permet de faire un peu moins parler des concurrents, et ce, à moindre frais. Parce qu'un petit produit à développer, c'est peanut. Et en plus, je sais pas si vous savez, enfin, ami auditeur, hein, vous le savez sûrement, mais chaque employé chez Google a un jour sur cinq où il peut faire le produit qu'il veut. Donc est-ce que vous pensez que c'est la tactique de Google de sortir souvent des nouveaux produits pour faire parler d'eux?
En fait, je crois que si on considère Google comme une société classique, on va se tromper. En fait, le truc qui est absolument dingue, c'est que Google n'a absolument pas besoin de la presse. Quand vous êtes, quand les gens allument leur ordinateur et se mettent sur Internet, il y a Google par défaut. C'est ça sur beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. Ne serait-ce que sur les Mac, par exemple, le moteur de recherche, c'est Google. Bon, sur Windows, beaucoup de gens, malgré tout, ont Google. Google n'a pas besoin de pub. Google peut très bien se passer de pub. C'est beaucoup plus la raison, effectivement, de la journée de travail des employés. Il faut de temps en temps sortir leurs produits, parce que sinon, les employés vont partir ailleurs. C'est pas forcément génial. Mais Google, c'est une société qui n'a pas besoin de pub. Vous savez, récemment, ils ont fait de la pub pour Chrome dans le métro. Moi, j'étais sidéré parce que Google, c'est une société qui ne fait même pas de publicité. Google engrange l'argent de la publicité, mais dépense très peu en publicité. Et Google n'a pas besoin de la publicité. Google peut se passer totalement de la presse, et ça, c'est un phénomène totalement nouveau.
Bah, moi, les pubs Google dans le métro, d'ailleurs, un jour, le matin où ils ont lancé ça, j'étais assez impressionné parce que j'étais mal réveillé, et dans le métro, je vois toute l'armada de pubs Google Chrome, sa station, elle était entièrement remplie de pubs. Et à mon avis, je pense que ces pubs, mais après c'est mon analyse, c'est plus une opération de communication pour le grand public, parce que au final, quand on s'aperçoit que Internet Explorer reste quand même à majorité utilisé, il y a quand même du boulot à faire de la part de Google pour promouvoir Google Chrome. Mais en même temps, c'est vrai que quand ils mettaient installer Google Chrome sur la page d'accueil Google, ça avait bien marché. J'avais parlé du fait tout à l'heure que Google se mettait à dos avec pas mal de gens depuis quelques temps. Ils sont fâchés avec les éditeurs de livres, l'affaire Lamartinière.
Ils sont fâchés en France.
Oui. Ils sont fâchés avec.
Il y a quand même la bibliothèque de Lyon qui s'est mis d'accord avec eux. Enfin, ils ont quand même. C'est pas très facile. Cette affaire des bouquins, c'est pas évident du tout. Mm-hmm. La bibliothèque mondiale. Parce que c'est un vieux rêve de la Ripage et de Sacha Brin. Et puis. Eux, ils avancent un petit peu à l'américaine, ils se disent, bon, on le fait, on veut. Donc, ils ont contacté les bibliothèques, il y a eu plusieurs bibliothèques qui leur ont donné l'accord, et ils reçoivent, quand on a demandé cette vue, ils reçoivent des camions entiers de livres. Donc, s'il fallait demander la permission à chaque éditeur, ce serait, voilà, ce livre-là qui a été publié en 1934, est-ce qu'il est dans le domaine public, est-ce qu'on peut le scanner ou pas? Ils se sont dit, à tort ou à raison, on scanne tout, parce que c'est des millions de livres qui arrivent chez eux, et puis les éditeurs qui sont pas contents, nous disent, écoutez, on vertira. Et ça n'a pas plu aux gens comme la martyre, parce qu'ils considèrent que, bon, ils considèrent qu'ils ont un droit. C'est un petit peu comme si on vous prend quelque chose, et puis après, on vous dit, si on ne devait pas vous le prendre, on vous le rend. Les éditeurs considèrent qu'ils ont un droit à leurs écrits, qu'on ne peut pas les copier comme ça, on n'a pas le droit de numériser comme ça. C'est presque une affaire de principe qui s'est passée avec la martyre. La martyre a gagné.
Ils sont pas fâchés seulement avec la Martinière, ils sont fâchés aussi avec Apple, le fameux divorce en août, ils sont fâchés avec Microsoft. qui là.
Microsoft, c'est naturel. Microsoft, il n'y a pas de fâcherie. Mais Microsoft a toujours été l'ennemi juré de Google. Disons, la stratégie de Google, depuis très très longtemps, consiste à couper l'herbe sous le pied de Microsoft. Mm-hmm. C'est ce qui s'est passé quand ils ont racheté YouTube. C'est ce qui s'est passé aussi quand ils ont racheté l'autre, agence de publicité. Comment c'était
Microsoft
convoitait.
Double clic, c'est ça.
En fait, à chaque fois, Microsoft propose une mise et puis Google propose énormément plus. Mm-hmm. En fait, l'idée, c'est pas compliqué. Microsoft, s'il pouvait, ferait tout pour tuer Google. Microsoft n'aime pas la concurrence. Donc, Google a cette stratégie qui est très intelligente vis-à-vis de Microsoft. Et à chaque fois, ils font des pieds de nez à Microsoft.
Ils sont fâchés aussi avec Mozilla après les propos d'Eric Schmidt. Bref, Google, comme j'ai dit, ils sont fâchés avec la Martinière, Apple, Microsoft, Mozilla. Ils commencent un peu à devenir seuls contre tous. Est-ce que c'est juste tenable sur le long terme? Est-ce que Google est assez puissant pour tenir ça?
Ils sont pas aussi fâchés que ça, enfin, faut pas exagérer non plus, parce qu'ils ont, la majorité des utilisateurs de leur côté. Il y a eu beaucoup plus de gaffes avec Street View. Street View, donc les caméras qui retransmettent, vous savez, les voitures de Google qui déambulent dans les rues et qui transmettent des vues panoramiques en temps réel. Ça, il y a une ville anglaise où il y a eu une résistance très forte qui est apparue. La Grèce a dit non, l'Allemagne a mis des restrictions, en Suisse, la justice, même sans parler de l'affaire. Google, surtout, c'est un petit peu... Oui, on est jeune, on s'amuse bien, on crée plein de trucs, et puis bon, c'est un peu le truc américain. Comme ils ne viennent pas en France, ils ne viennent pas ailleurs voir comment c'est chez nous, il y a un petit peu un truc, pas impérialiste, c'est pas le bon mot, mais bon, on fait ce qu'on veut, quoi. Mmh. Et ça peut leur coûter cher à terme, parce que les sociétés qui réussissent, malgré tout, doivent manifester un respect des gens. Mmh.
Google est un des acteurs majeurs du logiciel libre. On voit bien qu'il favorise l'initiative de projets libres avec le Summer of Code, qui est un meeting qui est consacré au logiciel libre tous les ans. Ils ont aussi présent avec Google Code, qui est un site qui se propose d'héberger gratuitement, bien sûr, des projets libres. Google a aussi fait des partenariats avec la fondation Mozilla et a publié une partie de son code source, enfin une partie, hein, je le signale,
oui,
sur Internet. Et Android et Chrome et le futur Chrome OS sont aussi open source, enfin plus ou moins. Est-ce que c'est, comme la sortie en permanence de nouveaux services dont j'avais parlé tout à l'heure, un leurre pour garder une image cool? Le fait d'être très impliqué dans le logiciel libre.
Pour Google, ce qui est essentiel, c'est d'avoir l'image « Je suis votre ami ». C'est pour ça que Google donne tout gratuitement, ce qui est un leurre énorme, parce qu'en fait, c'est la publicité qui paye. On ne devient pas la cinquième société mondiale, enfin, comme c'était à l'époque, non, peut-être pas la cinquième, mais dans la première société mondiale. Si on ne vend pas quelque chose, Google vend des choses, mais simplement, au lieu de le vendre à l'utilisateur, ils vendent aux annonceurs. C'est un petit peu comme la radio. La radio, bon, si on écoute une radio comme RTL ou Europe 1, c'est gratuit, mais c'est la publicité qui paye, quoi. Donc, il y a l'utilisateur paye par son attention et aussi par en cliquant sur le mot-clé de Google. Google a donc intérêt à ce que l'utilisateur passe par Google. La pire chose qui menace Google, c'est que demain, un jour, on dit tiens, il y a un nouveau moteur de recherche qui est beaucoup plus cool. Mmh. Là, le business model de Google s'effondre.
Est-ce que vous pensez que le fait que Google soit très implanté dans le logiciel libre, ça contribue à leur image cool auprès du public, entre guillemets, geek?
Oui, absolument. De toute façon, une des stratégies de Google, c'est de dire « je suis votre ami ». Mmh. Je suis votre ami, venez chez moi, tout est gratuit, on vous donne tout, mais sur ce qui est à l'heure, on vous le donne, mais on fait payer à d'autres. Mmh.
Là, je vais pas vous demander sincèrement d'explication, je vais juste vous demander un mot. Est-ce qu'il faut encore, aujourd'hui, utiliser Google et ses services, ou est-ce qu'il vaut mieux s'en détourner pour des questions de vie privée?
Je ne saurais pas quoi vous dire parce que, bon, moi, je reste malgré tout, j'utilise quand même Google. J'ai pas encore trouvé un moteur de recherche qui était mieux. Si un jour, il y en a vraiment un qui est mieux. Mais bon, ça reste le moteur de recherche, je trouve encore, qui donne les meilleurs résultats. C'est assez terrible à dire, mais bon. Maintenant, pour la vie privée, il faut savoir, il faut peut-être utiliser un autre moteur si on a certaines requêtes à faire, quoi. Mmh.
Parlons maintenant un peu du futur. J'avais dit dans un article précédent sur mon blog, je pense pas que vous l'ayez lu, qu'il manquait un secteur dans lequel Google avait encore à s'implanter, c'est la vente. C'est-à-dire, on le redit, Google c'est l'empire du gratuit, je pense pas que vous me direz le contraire. Mais
c'est un soi-disant empire du gratuit. Google, à longueur de journée, vend des mots-clés publics.
Oui, non mais c'est Google, l'empire du gratuit pour l'utilisateur, je veux dire.
C'est un empire pour l'utilisateur, mais c'est... Oui.
Mais maintenant, le Nexus One a changé la donne, parce que maintenant, Google commercialise des produits, fait payer l'utilisateur vraiment. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère? Est-ce qu'on verra bientôt un Google Online Shop ou un Google Music Shop? Est-ce qu'on verra ça?
C'est possible, hein, c'est pas impossible. Moi, je pense plutôt que Google, je les vois bien tôt ou tard donner les téléphones pour regarder les gens, pour que les gens continuent de cliquer sur les mots-clés publicitaires.
Vous pensez que Google va... pour donc vous pensez que Google va distribuer des téléphones gratuitement pour que...
Moi, je serais pas, je pense que ce serait plus dans leur stratégie, parce que leur modèle publicitaire, c'est les mots-clés. Donc Google, quel est l'intérêt de Google? C'est que je me balade dans une rue et Google me dit, tiens, pas très loin d'ici, il y a une boutique qui a, je sais pas... Il y a ce type d'objet que tu aimes tellement. On va dans la boutique, on fait l'achat et Google empoche une commission.
Est-ce que vous pensez que Google peut percer dans le domaine du matériel? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'après le Nexus One, ils pourront peut-être faire un partenariat avec telle ou telle entreprise pour avoir un Google Computer?
Je vois pas trop leur intérêt, je pense qu'ils y perdraient des plumes. Et puis, ils ont un modèle économique qui est tellement bien rodé et tellement facile, si je peux dire, puisque c'est un... Je vois pas leur intérêt de se mettre dans le matériel. Le matériel ne gagne pas tant d'argent que ça. Enfin bon, je veux dire, il faut s'appeler Dell ou Spectre pour faire des recours.
Pour terminer, une question toute simple. Est-ce que Google va... Donc vous pensez que Google va pouvoir s'implanter dans notre vie quotidienne, je veux dire en dehors de ce qu'on fait sur les ordinateurs. Est-ce que Google va s'implanter dans la domotique en fait? Est-ce qu'on verra un Google frigo ou une Google télé ou... avec éventuellement des publicités et tout ça donné gratuitement?
Je pense que beaucoup de ces appareils auront des écrans ou seront des écrans. Et plutôt Google, son intérêt, c'est d'être dedans. C'est-à-dire que bon, on ouvrira le réfrigérateur, il y aura peut-être une annonce de Google, ou je sais pas, il y aura peut-être des publicités. Ou attention, si vous achetez tel beurre, il y a une réduction sur celui-là. Je vois beaucoup plus Google rester dans le logiciel. Et de toute façon, tous les objets vont avoir de plus en plus du logiciel. Je pense pas que Google, je sais pas, je serais Google, je m'en mettrais pas à aller dans le matériel.
Là, j'ai terminé les questions. Je vais juste vous demander, si c'est pas trop vous demander, de faire en gros une sorte de petite synthèse de ce que vous pensez, enfin de ce que vous avez retenu de toutes vos recherches que vous avez fait sur Google. Enfin, de toutes vos recherches que vous avez fait sur la société, pas sur le moteur de recherche.
Bah, moi, le jour où j'ai vraiment vu comment fonctionnait le système des AdWords, des publicités Google, j'avais vraiment l'impression comme dans un roman quand on trouve l'assassin, en fait. Je me disais, mais. C'est un modèle hallucinant. C'est là pour les auditeurs d'internet, ce que j'ai dit tout à l'heure. Les enchères ne peuvent qu'augmenter. C'est un revenu. Disons, la plupart des sociétés cherchent ce qu'on appelle le revenu automatique. Windows, par exemple, pour Microsoft, c'est un revenu automatique parce que qu'est-ce qui vend Windows? C'est Dell, c'est Hewlett Packard, c'est Asus. Microsoft ne vend pas Windows, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vendu par d'autres. C'est vendu par les constructeurs d'ordinateurs. Donc, un revenu automatique, je ne sais pas, peut-être Coca-Cola ou certaines marques, on arrive à un point où, à la limite, elles peuvent ne pas faire de publicité et ça va continuer à se vendre. J'imagine quelqu'un, par exemple, s'il a du mal à dormir, il va acheter des boules caisses, c'est presque un petit peu un réflexe. Donc, il y a des marques comme ça. Et Google a développé le revenu automatique d'un live, puisque c'est quand on clique sur les pubs qu'un annonceur va payer Google. Et c'est un modèle qui ne peut que faire de plus en plus d'argent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui cherchent des alternatives, comme ce qu'on appelle le référencement naturel, vous voyez à quoi je parle.
Ouais,
C'est-à-dire que le site apparaisse grâce à son contenu. Donc ça revient beaucoup moins cher que les mots-clés de Google. Il y a beaucoup de sociétés qui commencent à chercher des alternatives parce que les AdWords de Google commencent à coûter vraiment trop cher. Parce que comme c'est aux enchères, pour être numéro un, il faut payer toujours plus cher. Et c'est que les plus gros qui peuvent arriver à payer ça. Et puis ça fait quand même. Ça, j'avais vu des chiffres, je ne les ai pas ici, j'avais vu les chiffres de revenus publicitaires des AdWords et c'est quelque chose de faramineux. Google est le premier annonceur mondial. Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait parlé de rapatrier un petit peu de cette manne publicitaire parce que ce sont des sociétés françaises qui confient leur publicité à Google et cet argent-là part en Irlande, il rentre pas en France. C'est pas génial pour notre économie.
Et bah, merci beaucoup, monsieur Ishbia, d'avoir voulu répondre à mes questions. Je vous rappelle, vous êtes l'auteur. Du livre Comment Google mangera le monde, qui est aux éditions, si je me souviens bien, de l'Archipel.
Oui, tout à fait.
En revanche, je crois que c'est en rupture de stock. Hein. Je suis allé à la FNAC tout à l'heure.
Il y a en rupture de stock, ah oui. Bon, de toute façon, je pense qu'on va sortir une nouvelle édition tôt ou tard. Mais on peut le trouver sur Amazon aussi ou sur lafnac.com. Enfin, on peut encore le trouver, effectivement.
On le trouve sur Google Books hein.
Je ne crois pas. Je ne sais pas. Ça, ce serait l'éditeur qui l'aurait fait. Mais j'ai un autre livre beaucoup mieux, c'est la saga des jeux vidéo.
Oui, je l'avais vu aussi. Ouais. Vous avez fait une nouvelle édition récemment, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup, monsieur Julien, d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.
Au revoir.